franceinter.fr.
Il est 8h22.
Le 7-9, Marc Fauvel sur France Inter.
Deux invités avec nous jusqu'à 9h. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour et bienvenue également.
Bonjour.
Attentat terrible hier soir à Berlin, quelques heures plus tôt. Assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie au nom d'Alep, c'est ce qu'a dit son meurtrier. Est-ce qu'il faut faire le lien entre ces deux événements? Est-ce qu'ils sont les deux facettes d'un même conflit? Bruno Tertrais.
Pas forcément. Vous savez, les attentats contre les marchés de Noël, on a failli en avoir un en France en 2000, si ma mémoire est bonne. C'était à Strasbourg, sur le parvis de la cathédrale, exactement dans le même type de contexte que ce qui s'est passé, malheureusement, à Berlin. Et ça montre d'ailleurs que l'attentat de Berlin, ça montre bien que ces attentats ne sont pas liés directement aux interventions militaires. Vous savez, on a beaucoup dit la France était visée parce qu'elle intervenait en Syrie, etc. Oui, que je sache, l'Allemagne n'est pas exactement un partenaire militaire majeur en Syrie et en Irak aujourd'hui. Donc vous voyez, peut-être que ça a un lien, mais vraiment pas forcément.
Oui, j'ajoute que si c'est un attentat terroriste de type islamiste, qui n'est pas encore démontré, on peut même aller plus loin. L'Allemagne n'a jamais colonisé de société musulmane. Donc je dis ça parce que l'une des vulgates des islamistes et malheureusement des idiots utiles de l'islamo-gauchisme en France ces dernières années, c'est de considérer que la France n'a pas fait son travail, ce qui d'ailleurs peut être tout à fait discuté avec son passé colonial. Oui, enfin en l'occurrence, ni la Belgique frappée ces derniers mois et ces dernières années, ni l'Allemagne, ni d'autres pays comme les Pays-Bas n'avaient colonisé de société arabo-musulmane. Pour les Pays-Bas, il y avait eu l'Indonésie, mais franchement, ça date et jamais les islamistes n'en ont parlé.
Qu'est-ce qui était visé hier en Allemagne? Les chrétiens, dit Donald Trump, cette nuit aux États-Unis, l'Occident, une grande capitale, un marché de Noël, c'est tout et n'importe quoi pour faire peur et pour faire mal.
Si vous écoutez et si vous lisez l'abondante littérature islamiste, c'est évidemment l'Occident chrétien qui est visé en tant que chrétien. Ça a été très bien dit tout à l'heure par Anthony Bélanger.
D'où la symbolique du marché de Noël.
Absolument. Et on est au-delà de la symbolique car il s'agit de tuer le maximum de gens. Alors bien évidemment, vous avez soit sur le plan chronologique, soit sur le plan spatial, des symboles. On choisit pas n'importe quand ni n'importe où. Mais surtout, ces dernières années, on choisit de tuer le plus possible et il faut remonter à l'attentat emblématique du 11 septembre à New York en 2001 pour revenir sur cette réalité, tuer le maximum de gens.
Bruno Tertrais, quelques heures plus tôt, la Russie perdait donc son ambassadeur en Turquie, assassiné par un homme. Les images sont terribles. L'homme a justifié son geste en parlant de djihad. Il dit qu'il a fait cela au nom des habitants d'Alep. Quelle peut être la riposte de Moscou? Est-ce qu'il y en aura une? Non, nous disait il y a quelques instants Anthony Bélanger.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Anthony Bélanger. Aucun des deux protagonistes n'a intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Cela dit, attention, l'attentat a été extraordinairement médiatisé. Pour une raison très simple, c'est qu'on l'a vu en direct à la télévision, qui a une scénographie absolument extraordinaire. On a l'impression de voir une série américaine, pardonnez-moi de cette comparaison. Et donc son impact politico-médiatique a été multiplié par 10, y compris en Turquie et en Russie. Or, vous pouvez très bien avoir, notamment dans les milieux des hackers russes, des gens qui vont vouloir se venger contre la Turquie, à tort ou à raison. Hein. Et par exemple, je pense aux hackers, parce que ça fait partie des petites spécialités de la Russie. On est entre l'étatique et le non-étatique, des gens qui travaillent parfois avec le gouvernement, parfois de manière totalement autonome. Moi, je ne serais pas du tout surpris qu'on ait effectivement, par exemple, une petite vengeance de hackers russes contre la Turquie. Non, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette fameuse réunion qui était prévu depuis longtemps entre la Turquie, l'Iran et la Russie. Est-ce que l'attentat était directement destiné à impacter ceci? Pas forcément. Faut pas toujours voir des grandes explications. C'était peut-être tout simplement un effet d'opportunité. Bon, mais en tout cas, je crois que ces deux pays, la Turquie et la Russie, qui se sont réconciliés au moins provisoirement l'été dernier, vont chercher, au moins au niveau des gouvernements, à maintenir leurs bonnes relations et on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions.
Pas de risque d'embrasement en Turquie, Frédéric Ancel. Les deux pays, Turquie et Russie, se sont rapprochés récemment, mais on sait aussi les purges depuis l'été dernier que pratique le président Erdogan. Est-ce que ça peut être l'occasion pour lui de serrer encore un peu plus la vis?
La réponse est oui. Si vous me demandez s'il risque d'y avoir un embrasement entre la Russie et la Turquie, non, je serais d'accord avec Bruno Tertrais. Encore que, petite incise, je pense que Vladimir Poutine aura encore moins d'humour qu'auparavant avec la Turquie, notamment parce que il y a 2 ans et demi de cela, l'un de ses chasseurs bombardiers s'est fait abattre. Alors évidemment,
c'était la raison du coup de froid entre les deux pays. L'une des raisons.
Alors longtemps après, Erdogan a fini par s'excuser, mais enfin là, effectivement, la scénographie est quand même extrêmement grave. Et Vladimir Poutine est un homme d'État qui doit lui aussi, quoi qu'on en pense, tenir compte de son opinion publique. Cela dit, embrasement en Turquie même, oui, je pense que là, on a affaire à un pays qui s'enfonce dans une forme non seulement de dérive, on l'a dit et on l'a vu à maintes reprises, mais dans une forme de chaos. Et je pense que la Russie va contester l'efficacité des services de police et de renseignement de la Turquie, parce que permettre ce type d'attentat gravissime contre un ambassadeur de Russie, ça risque de ne pas passer. Et ça signifie bien, de façon plus générale, que la Turquie est allée peut-être trop loin et de façon trop imprudente mettre les doigts dans l'engrenage irakien, mais surtout syrien. Hein, la Turquie aujourd'hui, elle est très profondément impliquée en Syrie. Elle l'a été de façon d'autant plus imprudente que pendant au moins 2 ans, elle a été, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement complaisante avec l'islamisme radical et en particulier avec Daesh.
Quelques heures avant cet assassinat, la Russie venait enfin d'accepter la résolution portée par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies pour permettre la présence d'observateurs internationaux en Syrie. C'est un revirement, la position de la Russie, Bruno Tertrais, où on n'a rien compris, tout simplement, encore une fois, Vladimir Poutine.
Je suis sûr que vous avez tout compris, mais en tout cas, ce n'est pas un revirement. Pourquoi ? Parce que accepter cette résolution, c'est pas du tout la même chose que d'accepter des résolutions qui concernaient directement des plans de paix. Là, c'est tout simplement d'avoir la possibilité d'avoir des observateurs sur place pour contrôler que le cessez-le-feu et l'évacuation, surtout.
Oui, mais qui pourront, le cas échéant, surveiller d'éventuelles exactions contre des civils ou contre des combattants rebelles.
Mais premièrement,
il n'y a pas de risque de la part de Poutine, il contrôle.
Poutine ne contrôle pas tout ce qui se passe à Alep. Personne ne contrôle tout ce qui se passe à Alep. Simplement, premièrement, ça arrive un petit peu tard parce que malheureusement, dans ces situations, chaque heure compte. Mais ce n'est pas un revirement de la Russie, parce que la Russie n'a rien à perdre, tout simplement. Elle a presque tout à gagner, d'une certaine manière, en acceptant ce type de résolution et en apparaissant, au contraire, comme une puissance qui, maintenant, veut calmer le jeu. Moi, je ne serais pas surpris, d'ailleurs, qu'on ait... Si Poutine était véritablement un grand stratège, ce que je ne suis pas sûr, aujourd'hui, ce qu'il ferait, c'est qu'il remettrait sur la table les plans de paix en disant « Maintenant, je suis prêt à aller plus loin » et même éventuellement, à envisager une transition en l'absence de Bachar el-Assad. Et là, il aurait tout gagné. Je suis pas sûr qu'il aille jusque-là, mais en tout cas, cette résolution n'est simplement qu'une gestion tactique de la situation, pas un revirement total.
Voilà la stratégie Poutine. On va en reparler, si vous voulez bien, avec les questions des auditeurs dans quelques instants. Vous pouvez les poser dès maintenant au standard de France Inter 01 45 24 7000 ou avec le mot-clé interactive sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, avant tout cela, ce sera la revue de presse dans quelques instants.